pour un son.
Pour un son, Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
De notre invité, vous connaissez le visage, inspirant une sympathie et une confiance spontanée. Le sourire, discret et semblant toujours bienveillant. Et le regard, alternant attention et malice. De lui, vous connaissez aussi les livres, entre autres Un merveilleux malheur, Les vilains petits canards, Sauve-toi, la vie t'appelle. Si vous avez lu ses écrits, vous connaissez alors aussi quelques pages de sa vie, celle d'un petit garçon orphelin, dont les parents sont morts en déportation, qui, échappant à 6 ans à la Gestapo, a survécu, a grandi, est devenu un jour médecin, un homme qui soigne et écoute l'autre, il est psychiatre, psychanalyste, neurologue, éthologue. Célèbre pour son développement du concept de résilience, il sort aujourd'hui son nouvel ouvrage, Ivre paradis, bonheur héroïque. Et si c'était lui, le héros des temps modernes? Qui mieux qu'un guérisseur des âmes pour nous faire rendre les armes de notre mal-être? Qui mieux qu'un homme qui écoute pour faire taire l'enfer sur terre, en nous invitant à nous enivrer du paradis que nous camouflons tous au fond de nous.
Pour un oui, 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 oui. Pour un son, 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 son.
Bonjour à tous, bienvenue. Vous écoutez Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Boris Cyrulnik.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben ça va encore.
Jusqu'à maintenant, tout va bien.
Jusqu'à maintenant.
Vous venez de sortir, c'était au mois d'avril, votre nouveau livre, je le disais, Bonheur, Ivre paradis, bonheur héroïque, chez Odile Jacob. Pourquoi parler des héros aujourd'hui? Est-ce que c'est un sujet auquel vous pensiez depuis longtemps? Est-ce qu'il y a une raison autre?
C'est un sujet que j'avais envie de travailler très longtemps, depuis très longtemps, et dans le cadre de la résilience, je me suis demandé si les héros étaient des facteurs de résilience. Et la réponse est partiellement oui et partiellement pas oui. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie de travailler ces images identificatoires que sont les héros quand on est faible, donc ces images magnifiques parce qu'elles prouvent justement qu'on a besoin de héros quand on est faible.
Uniquement quand on est faible? Si tout va bien, si on est bien dans sa peau, on peut avoir des héros quand même?
Oui, mais ce sont des héros éphémères. C'est Zidane, c'est Kouchner, c'est Sœur Emmanuelle parce qu'elle est bien sympa, qu'elle aime le football. Donc,
Associe les deux, c'est pratique.
Mais
la
oui.
Bonté et le football.
Mais oui, je pense que c'est des héros éphémères parce qu'on n'a pas besoin d'être sauvé. Zidane sauve un match. Sœur Emmanuelle sauve un moment de dépression, un moment de tristesse, un groupe en difficulté, comme Kouchner. Donc ça, c'est des héros de temps de paix. Mais quand les héros surviennent en temps de guerre, alors là, on en a besoin, et là, ça risque de devenir des héros maléfiques, parce qu'on attend d'eux qu'ils nous sauvent, et pour qu'ils nous sauvent, on est prêt à payer très cher. Par exemple, on vote pour les dictateurs. Beaucoup de dictateurs ont été élus, le plus démocratiquement du monde. Et ensuite, ils nous imposent leurs lois avec notre soumission.
Qu'est-ce qui définit un héros, d'ailleurs, par rapport à une idole, à...
Les chrétiens ont eu beaucoup de mal avec cette l'image, hein. C'est-à-dire que les chrétiens ont embelli la condition humaine avec les cathédrales, avec les images et la charcuterie de cochon, hein, faut pas oublier. Et les chrétiens ont embelli la condition humaine avec ça. Mais au XIIIe siècle, ils ont estimé que l'image rabaissait la pensée. C'est une phrase de Freud qui était opposée à toutes les formes de croyances religieuses. Et il y a eu les iconoclastes qui détruisaient les statues et les tableaux. Et quand, à la Renaissance, les images pieuses, les tableaux sont réapparus, les protestants ont vigoureusement protesté en disant « ce sont des images d'idoles ». Comme les juifs et comme les protestants, Dieu ne peut pas être représenté, ça ne peut pas n'être qu'une image, il faut que ce soit une entité. C'est l'entité du mystère de la vie, du miracle d'être vivant. Si on le représente, on rabaisse l'idée de Dieu à l'image de Dieu. Et là, on devient idolâtre.
Du coup, on a l'impression qu'on a eu toujours, à toute époque, des héros, que ce soit des réels ou des fictifs, d'ailleurs.
Les héros sont un peu comme l'étoile du berger. C'est-à-dire qu'il nous montre la voie. Qu'est-ce que j'aimerais être comme il est? Qu'est-ce que j'aimerais être, un homme de science, un grand footballeur? C'est mon héros. Il me montre la voie. Mais il peut aussi, en me montrant la voie, me rendre prisonnier de cette voie. C'est la seule voie possible. Toutes les autres sont des voies de mécréants qui méritent la mort. Et là, on est dans le langage totalitaire.
Et ça dépend du héros ou ça dépend du lien qu'on va instaurer avec le héros?
Voilà, le héros, souvent dans la réalité, c'est personne, c'est pas grand monde. Hitler, maintenant que les archives de Berlin sont ouvertes, Jan Kershaw, Christopher Browning, beaucoup d'historiens montrent que la personne d'Hitler, c'était rien. Il était d'une transparence stupéfiante, aucune culture, aucun talent relationnel, rien. Et cet homme-là a embarqué la belle culture germanique dans un crime le plus honteux de l'histoire humaine. Et aujourd'hui encore, les jeunes Allemands, qui sont redevenus fréquentables, ils ont refait une culture tout à fait passionnante, comme elle l'était avant l'apparition du nazisme, eh bien, ils se demandent encore qu'est-ce qui a pu s'emparer de ce pays avec une très belle culture pour le transformer, le faire évoluer vers une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Eh bien, je crois que c'est parce qu'ils ont donné tous les pouvoirs à un héros et ils se sont soumis à un héros maléfique pour lequel ils ont voté.
Vous évoquez dans votre livre, Boris Cyrulnik, vos héros lorsque vous étiez enfant puis adolescent. Ils vous ont accompagné, contribué à vous construire. En voici quelques-uns.
Oliver Twist, on a réclamé encore.
Il en veut encore.
Cet enfant sera pendu. Tu sais que tu n'as ni père ni mère.
Je le sais.
Je suis son ami et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie.
Oui, vous êtes à l'hôpital. Mais vous n'y êtes pas pour visiter des malades. Vous y êtes pour découvrir un homme. Celui que tous appellent familièrement le patron. Oui, ce grand patron, c'est Pierre Freinet. Vous le redouterez. Vous l'admirerez, puis vous l'aimerez. Dans sa grandeur comme dans ses faiblesses.
Oh, we can be heroes. Just for one day.
La nuit, je me couchais dans un hangar, à côté des cercueils. J'avais peur. J'ai voulu me sauver. Un jour, j'ai rencontré votre ami, Monsieur Charlie. Il m'a dit qu'ici, je serais heureux et bien soigné.
Heureux et bien soigné, ben, tu as réussi. Écoute, mon petit, je vais te donner un bon conseil. Prends tes jambes à ton cou, sauve-toi. Monks et Charlie sont sortis. C'est une occasion qui ne se représentera pas.
Me sauver? Où irais-je?
Tu n'as pas d'amis?
Je ne veux pas retourner chez mon beau-père.
À tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre. Après cette dédicace, Jules Vallès offre aux jeunesses malheureuses de lumineuses raisons de se battre pour changer la vie.
Je t'ai changé en fleurs. Puis je t'ai cueilli pour que tu meurs. Je m'appelle Mandra, le magicien.
Il a rendu célèbre ce petit village du Gabon au nord du fleuve Ogoué, simplement parce qu'il a choisi d'y passer sa vie il y a 50 ans. Quand on prononce aujourd'hui dans les salons et les académies du monde entier le nom du docteur Albert Schweitzer, ce n'est pas d'abord l'organiste célèbre qu'on évoque, ni le théologien, ni le philosophe, ni le médecin, ni même le héros du prix Nobel de la paix, mais ce coin de brousse et ces quelques maisons au bord du fleuve qu'on appelle l'Embaréné.
La destinée a été l'Embaréné. Ça s'est présenté, n'est-ce pas? J'avais des amis qui étaient ici missionnaires. Alors j'ai choisi l'Embaréné. On m'a dit, il y a la maladie de sommeil, il faut lutter. Alors je suis venu d'abord pour la maladie de sommeil et après mon hôpital est resté et devenu plus grand. Je me sens tellement privilégié dans ma vie.
C'est très bien illustré, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et ce sont ces héros qui m'ont réchauffé, qui m'ont dynamisé, qui m'ont montré la voie. Que ce soit Tarzan ou le docteur Schweitzer, c'était pas le même style.
Pas le même physique.
Mais et Jules Vallès, j'ai beaucoup fréquenté Jules Vallès. Et effectivement, ces gens-là, ces écrivains-là, ces cinéastes, m'ont montré qu'il était possible de s'en sortir. C'est même quand Tarzan est seul dans la brousse, eh bien, il peut quand même s'en sortir. Les animaux le sauvent, et ensuite, il sauve les animaux. Et il rencontre Jane. Le docteur Schweitzer va à Lambaréné, et il trouve presque de quoi guérir la maladie du sommeil. Quand je me renseignais sur Schweitzer, j'étais convaincu qu'il allait trouver, qu'il allait guérir, supprimer la maladie du sommeil. Donc je pense que c'est Jules Vallès, j'étais convaincu que en militant, on allait supprimer les injustices sociales. Je sais maintenant que le progrès n'est pas linéaire, et je sais maintenant que même les plus glorieux progrès ont des effets secondaires et qu'on les paye.
Et puis on a croisé aussi la route d'autres de vos héros, Oliver Twist, Superman, Rémi sans famille. Un grand patron, c'est le rôle d'un médecin joué par Pierre Fresnay dans le film d'Yves Ciampi en 51. Et vous avez cité les autres, Mandrake aussi, le magicien. Voilà. En quoi, pourquoi vous ressemble-t-il autant, vous écrivez un moment, mes héros étaient faits du même sang que le mien. Dites-moi quels sont vos héros, je vous dirai de quoi vous souffrez. Nous n'avons pas les mêmes blessures, nos pansements seront variés. Surtout qu'il y en a des différents, il y a des profils, comme vous le disiez, différents entre Tarzan et Albert Schweitzer, entre autres. Il y a un lien commun ?
Oui, ils sont différents, mais ils ont un programme commun. C'est-à-dire, oui, ils sont différents, Tarzan et Schweitzer. Schweitzer, sur le plan musculaire, il n'était pas terrible. Et Tarzan, sur le plan intellectuel, je sais pas. Heureusement qu'il y a eu Jane pour lui apprendre, toi Tarzan, moi Jane, sinon il était dans une école de rattrapage. Mais ils ont leur programme commun, c'est vous êtes blessé, vous n'êtes pas blessé pour la vie. Vous êtes blessé, vous n'êtes pas foutu.
Gardez de l'espoir. Il y a un message d'espoir.
Oui, c'est pas de l'espoir, c'est du travail. Tarzan doit combattre. Et pour sauver les animaux, il doit devenir roi de la jungle et combattre les méchants. Schweitzer doit combattre. Il doit combattre la maladie du sommeil. Il doit combattre ceux qui ne l'ont pas toujours bien accepté en Afrique. Jules Vallès doit combattre. Il a été combattu. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là ont un combat, mais c'est pas l'espoir. C'est de la bagarre.
L'héros se développe dans les chaos culturels et les déserts de sens. C'est aussi un peu la compensation d'un manque.
Exactement. Il n'y a pas de créativité sans manque. Un enfant vivait dans un univers parfait, il serait gavé. Pourquoi voulez-vous qu'il soit créatif? Tout serait fourni par le milieu. Il faut un manque, donc une souffrance, la souffrance de la perte, le deuil notamment, pour l'inviter à remplir ce manque, à compenser cette perte.
Ça crée un désir.
Et ça crée un désir.
Pour être heureux, soyons malheureux.
Et oui, c'est ça, exactement. Et alors, à ce moment-là, Tarzan devient musclé, il sauve Jane à son tour, et Jules Vallès organise des manifestations, le docteur Schweitzer a le prix Nobel. Mais c'est un travail, c'est pas l'espoir passif, c'est un espoir combatif.
Et actif. Boris Cyrulnik est l'invité de Pour un oui, pour un son aujourd'hui, à l'occasion entre autres de la sortie de son livre « Ivre, paradis, bonheur, héroïque ». On écoute tout de suite Clarica, c'est son 7e album. Ça s'appelle « De quoi faire battre mon cœur » et le titre « Rien de nous ». Et on découvrira un petit peu plus sur Boris Cyrulnik juste après. Le vent, je suis poussière.
dans l'armoire du fond, des photos, peut-être une chanson. Car rien de nous n'est important. Car rien de nous n'est important. Qu'on est debout, on prend des coups. Pourrait-on de temps en temps, qu'on est vivant, être heureux même un petit peu. Mais tant qu'on est debout, des bleus partout. Le vent, notre amour défiera le temps. On était juste de passage, et que la vie tourne la page. Car rien de nous n'est important. Car rien de nous n'est important.
Pour un oui, pour un son.
Pour un oui, pour un son.
Pour un oui. Pour un son.
Boris Cyrulnik, le rôle d'un psy aujourd'hui dans notre société, c'est quoi selon vous? Est-ce que ça a évolué depuis ces 50 dernières années par exemple? Parce que c'est récent.
Et non, les psychiatres ont toujours existé, même avant la psychiatrie.
Ah, et qui étaient-ils?
Des sorciers, des chamans, des médecins, des juges inquisiteurs. Faut pas oublier que jusqu'au début du XIXe siècle, le traitement d'épilepsie, c'était le bûcher. Puisque s'il y avait un épileptique, on avait la preuve qu'il était visité par le diable, donc il méritait le bûcher. Donc beaucoup, ceux qui faisaient la psychiatrie avant la naissance de la psychiatrie se revendiquaient de la psychiatrie et appliquaient tous les stéréotypes, tous les préjugés du contexte étaient appliqués pour ceux qui avaient des difficultés. Quand Nabucodonosor rentre de la guerre contre les Hébreux complètement déboussolé, il marche à quatre pattes, il se prend pour un animal, on pense pas qu'il est fou, on a la preuve qu'il est possédé. Et que les Hébreux sûrement lui ont envoyé de mauvaises ondes. Et on continue. Et toute la vie, ça a été comme ça. Si, à l'époque où le nazisme s'est développé, le nazisme s'est développé dans un contexte où on hiérarchisait les hommes entre eux, et il y avait des hommes de bonne qualité, donc des hommes de mauvaise qualité. Et c'est de l'anthropologie française qu'est parti le racisme, qui a très bien vécu en Allemagne, mais c'est pas eux qui l'ont inventé, hein. C'est l'anthropologie française, 19e siècle, avec Drummond et Lapouge, et d'autres. Donc, et à ce moment-là, quand on voyait un homme anxieux, blessé, eh bien, on disait c'est parce qu'il est de mauvaise qualité, puisque les hommes étaient hiérarchisés par la qualité de leur cerveau. Donc, avant la psychiatrie, c'était les préjugés du contexte qui alimentaient ce qu'on appelait la psychiatrie et qui était fait par des non-psychiatres. Et ça a continué jusqu'en 1972, où beaucoup de chefs de service en psychiatrie n'avaient pas fait d'études de psychiatrie. Ils étaient chefs de service, ils étaient médecins des hôpitaux psychiatriques. Ils n'étaient pas psychiatres, ils étaient médecins pour soigner la pneumonie du fond, puisque le préjugé culturel disait que la folie ne se soigne pas. Personne n'était capable de dire ce qu'était la folie, mais on savait que ça ne se soignait pas. Et quand la psychiatrie est née, a commencé à préparer sa naissance au début du XXe siècle, le modèle médical était totalement pertinent. Méningite syphilitique, méningite tuberculeuse, folie urémique, on ne savait pas soigner les maladies de reins, donc l'urée s'augmenter dans le sang jusqu'à intoxiquer le cerveau, folie urémique. Les crétins des Alpes, avec cette douce dénomination, c'était parce qu'il y avait, ça manquait, les gens manquaient d'iode, surtout dans les Alpes de Provence. Ils manquaient d'iode, donc ils avaient un goitre et effectivement leur cerveau était intoxiqué par des dérivés de la thyroxine, de la tyrosine. Et dans ce cas, on avait le modèle médical, le traumatisme crânien, les ouvriers tombaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'accidents de travail. Les ouvriers buvaient beaucoup. Donc le modèle médical était totalement pertinent. Et c'est le développement de la médecine qui a rendu impertinent, non pertinent, le modèle médical. Et on a continué pendant très longtemps à médicaliser la folie, même si on ne sait pas ce que veut dire ce mot, alors que la médicalisation n'avait pas... Parfois, de temps en temps, on a une intoxication, on a une encéphalopathie qui continue à justifier le modèle médical. Mais l'immense majorité des cas de souffrance humaine sont d'origine affective ou psychosociale, et pas rarement, parfois, rarement médicale.
Vous parlez en fil conducteur des héros dans votre livre, mais vous abordez aussi beaucoup d'autres thèmes, entre autres celui de la soumission. Et vous écrivez à ce sujet, il est difficile et douloureux de ne pas se soumettre. La liberté de penser est une épreuve angoissante parce qu'elle isole et risque de provoquer la haine de ceux qu'on aime encore, malgré nos désaccords. La soumission apporte tant de bénéfices affectifs que ça vaut bien un petit renoncement, non?
Eh oui, je suis encore d'accord avec ce que j'ai écrit.
Tant mieux.
Ça tombe bien. Oui, oui, parce que comment faire pour vivre ensemble? Si je ne respecte pas un programme commun, je vais chercher à imposer ma loi. Et on voit, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour l'immigration, quand les migrants sont mis dans des camps, où il n'y a plus de culture, où il n'y a plus de loi, où il y a... Alors quand il n'y a plus de loi, réapparaît en quelques jours la loi du plus fort. Un adolescent, un garçon, 16 à 20 ans, entouré par des lieutenants qui augmentent sa brutalité, impose sa force par la terreur. Terreur. Il fait régner sa loi. Ça se met en place avec une vitesse stupéfiante. Quelques jours. C'est ce qu'on a vu à Calais. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres camps. La plus mauvaise solution pour les migrants, c'est incontestablement le camp. C'est parce que, instantanément, les processus archaïques de socialisation se remettent en place.
Parce que la loi ne rentre pas à l'intérieur du camp. La
justice. Ni loi, ni culture. Donc c'est la loi du plus fort. C'est ce qui se passe quand il y a un chaos, où ceux qui s'en sortent prennent le pouvoir par la violence, par la force. Alors, dans ce cas-là, il est nécessaire d'accepter que j'ampute une partie de ma personnalité pour que je puisse vivre dans un groupe. Donc je vais renoncer à une partie de l'expression de mes désirs, parce que les désirs de mon voisin ne seront pas les mêmes, et si je veux continuer à côtoyer mon voisin, eh bien je vais non pas faire un sacrifice, mais je vais ne pas tout exprimer de mes désirs. Et comme ça, on pourra vivre ensemble. Et à ce moment-là, la soumission mène au pouvoir. Si on est tous les deux seuls au monde, vous êtes plus fort que moi, vous êtes plus riche, vous avez l'armée, vous avez la police, vous m'impressionnez, vous avez une relation d'emprise, vous me dominez. Je suis malheureux, mais je suis bien obligé d'accepter votre domination. Mais je vous surveille, et à la première défaillance, je ne vais pas vous rater. Donc ça, c'est les rapports de domination. Si tous les deux, vous et moi, on s'associe pour lui donner le pouvoir, c'est-à-dire que on va lui obéir. S'il devient notre chef et s'il remporte la victoire... Alors
lui, c'est Alexandre Lemierre. Vous êtes en train de montrer du doigt le réalisateur de l'émission. Donc c'est une troisième personne qui vient dans notre petit groupe de terriens un peu isolés.
Donc s'il remporte la victoire, ça sera grâce à notre obéissance. Donc il nous doit sa victoire. En obéissant, notre chef a réalisé nos rêves. Et en disant ça, je pense à Eichmann, à Nuremberg, qui disait « Je n'ai fait qu'obéir. Mon œil, Hitler réalisait ses rêves et ses désirs. » Et en obéissant, effectivement, il a obéi parce que Hitler réalisait ses désirs. Alors, on voit que si je me désolidarise, parce que je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, on a eu un lien d'attachement, on lui a donné la victoire, il nous a glorifié, on l'a glorifié. Si il a perdu la guerre, on n'a fait qu'obéir. c'est lui le responsable, c'est pas nous. Eichmann à Jérusalem, je n'ai fait qu'obéir. Tous les inculpés de Nuremberg, tous les Hutus, presque tous les Sud-Africains, les dictatures militaires emploient exactement les mêmes mots, je n'ai fait qu'obéir. Donc, obéir, ça permet de commettre des crimes sans aucune culpabilité, sans aucune honte. Donc, moi, je juge.
La banalité du mal.
La banalité du mal. On a beaucoup critiqué Hannah Arendt à cause de cette expression. Pourtant, qu'est-ce que je trouve qu'elle est pertinente, hein ? Alors, si, à force de militer ensemble, en lui donnant la victoire, on a fini par s'attacher l'un à l'autre, on a remporté une victoire, on a souffert ensemble, vous m'avez protégé, et puis je suis plus d'accord avec vous. Alors à ce moment-là, je vais devoir m'éloigner. Et dans ce cas-là, je vais m'arracher parce que je vais perdre l'affectivité du groupe, je vais perdre la solidarité, je vais perdre tous les bons souvenirs de victoire ou de défaite qu'on a eu ensemble. Donc c'est douloureux de désobéir, c'est très agréable, c'est plein de bénéfices d'obéir, l'obéissance est pleine de bénéfices, mais ça peut mener à un maléfice culturel, comme on le voit dans toutes les dictatures, qu'elles soient religieuses, laïques ou scientifiques, toutes les dictatures exigent l'obéissance.
Maurice Yannick, les sujets psy et les psys sont très présents dans les médias. Il arrive que ce soit même les journalistes eux-mêmes qui se prennent pour des psys. Voici une balade sonore dans cette relation parfois fusionnelle entre psy et médias.
Mais vous savez aussi que la télévision peut être une thérapie.
Bonjour William, bonjour à tous. Claude Almos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, spécialiste de l'enfance, et vous venez de publier « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?»
Bonjour à tous. Bonjour Marcel Ruffaut. Bonjour. Les téléspectateurs de France Télévisions connaissent bien le pédopsychiatre que vous êtes. Alors en cette veille de Noël, on va bien sûr parler des enfants, des cadeaux, de l'attente, peut-être un peu aussi du Père Noël.
Christophe André, bonjour. Vous êtes psychiatre et vous publiez chez l'Iconoclaste et à la réédition « Trois amis en quête de sagesse ». C'est écrit avec Alexandre Jolien, philosophe que nous avons déjà reçu, Mathieu Ricard.
Déprime, anxiété, problème de couple, vous avez décidé de trouver de l'aide auprès d'un spécialiste, mais vous ne savez pas quel psy aller voir, lequel faut-il choisir ?
Je suis psychanalyste depuis de nombreuses années et on m'a souvent demandé comment ça se passe dans le cabinet du psychanalyste. Eh bien, j'ai voulu le montrer en images, montrer notamment comment ça se passe la première fois.
Et l'on va retrouver pour tenter de comprendre notre invité en direct de Paris, Serge Éphèse, que nos téléspectateurs connaissent bien. Vous êtes psychiatre.
Monsieur Coustet, lui, visiblement, n'a pas apprécié. Il l'a dit au secrétaire d'État à la communication, monsieur Filliou. Voilà pour les explications qui vont vous permettre d'apprécier cette passe d'armes verbale.
Je voudrais savoir si véritablement cette émission nouvelle, car c'est une émission nouvelle, qui sera, je suis sûr, suivie d'autres émissions si le gouvernement n'agit pas, sera, je suis sûr, de nature à lever sur tous les bancs, mes chers collègues, des protestations, car il s'agit de savoir si nous voulons une télévision scandaleuse, une télévision thérapeutique de la sexualité maladive, et en fin de compte, si nous voulons une télévision qui soit vraiment formatrice, informatrice, éducatrice et de qualité.
Oui, bonjour Doc, bonjour Diffoune.
Mais vous savez aussi que la télévision peut être une thérapie.
Ouais. Moi, c'est vrai que je pars du discours intime aussi. C'est vrai que je questionne la personne sur son cheminement, mais ça débouche sur un problème de société. C'est toute la différence, c'est que effectivement, il y a de la psychologie, mais surtout, je pose un problème au collectif. Je crois que ça, c'est important.
Eh bien, tu as raison de dire ta souffrance. Je suis là pour l'écouter et je ne peux pas y parer, car ta souffrance, c'est ça qui fait ta richesse.
Bien sûr, mais parler est une thérapie. Je crois que c'est pour ça que très très souvent, on me dit, mais est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, psychothérapeute ? Parce que le fait de s'exprimer est en soi une thérapie.
Et vous ne l'êtes pas ?
Non,
ta souffrance, c'est ça qui fait ta richesse.
Oui, bonjour, vous êtes Joanne, c'est ça ?
Oui.
Nous sommes une émission de radio, je suis doc de Fun Radio, et nous avons au téléphone actuellement Seb, qui est votre fils, je crois.
Oui.
Je trouve que Mireille Dumas a un grand talent pour mettre les gens à l'aise et les faire parler. Ça fait partie du métier de journaliste, donc elle a des connaissances psy suffisantes pour son métier. Et moi, j'ai l'impression qu'elle s'en sert très bien.
Vous avez reconnu vos collègues. Certains sont vos collègues, d'autres de simples journalistes. On a entendu la voix de Jacques Chancel, Claude Almos, Marcel Ruffaut, Christophe André, Jean-Marc Morandini, Gérard Miller, Serge Effèze. Débat au sujet de l'arrivée de Psycho à l'époque. Le doc avec Difool, Mireille Dumas, Françoise Dolto et vous-même. Vous faites partie des psys qu'on entend, qu'on lit, qu'on voit beaucoup dans les médias. C'est un choix ?
Non, c'est une aventure.
On choisit cette aventure un petit peu. On choisit de participer.
J'ai choisi le chemin qui était la rage de comprendre un phénomène que je croyais psychiatrique quand j'étais enfant. Et je découvre, je suis un peu moins enfant aujourd'hui, et je découvre que c'est un phénomène psychosocial. Psychosocial. Alors que je croyais... je postulais que c'était un phénomène psychiatrique, parce qu'il fallait être fou pour être nazi. Du moins, c'est ce que je croyais quand j'étais enfant. Et maintenant, je découvre que les nazis étaient des hommes cultivés, souvent, de gentils papas, qui, par ailleurs, étaient capables de commettre d'immenses crimes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de psys dans notre culture? D'une part, c'est parce qu'il y a une complicité avec les journalistes. Et pourquoi est-ce qu'il y a une complicité avec les journalistes? C'est parce qu'il y a une complicité avec les auditeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pendant très longtemps, qui prenait la parole publique? Les rois, les aristocrates, les guerriers, les sorciers. Et c'est eux qui alimentaient tous les discours publics. Et puis ensuite, qui? Eh bien, ça a été les prêtres. C'est les prêtres qui disaient quel était le chemin vers le paradis, donc quel était le chemin vers l'enfer, et tout le discours public était organisé autour de ces choix entre vers le paradis ou vers l'enfer. Et au XIXe siècle, qui a pris la parole? Eh bien, ça a été l'épopée napoléonienne, les militaires qui encourageaient à faire la guerre, les enseignants qui enseignaient dans les écoles républicaines en France la haine des Boches de façon à préparer les petits garçons à la guerre. Donc, ou Henri Bordeaux, ou des gens comme ça qui disaient que c'était moral de préparer à la guerre, c'était moral de soumettre les femmes parce que ça permettait à la société de bien fonctionner. Donc notre société maintenant, avec la complicité des journalistes et des auditeurs, donne la parole aux psychiatres ou aux psys. Je ne vais pas m'en plaindre, mais ça veut dire que notre culture a changé puisqu'elle donne la parole à d'autres porte-paroles. Et les psychiatres, effectivement, sont des porte-paroles.
On va écouter une chanteuse tout de suite dont vous parlez à plusieurs reprises dans votre livre « Ivre paradis, bonheur héroïque ». C'est une femme éprise de liberté, défendant courageusement son indépendance de pensée. C'est Joan Baez qu'on écoute avec « God is God ». Thank you.
blessings. That every day on earth's another chance to get it right. Let this little light of mine shine and rage against the night. Just another lesson. Maybe someone's watching and wondering what I got. Maybe this is why I'm here on earth and maybe not. But I believe in God and God is God.
Pour un oui.
Pour un oui.
Pour un son.
Boris Olnik, vous êtes le développeur en France de l'idée de la résilience. Est-ce que la résilience, ce n'est pas qu'une étape dans la recherche vraiment de liberté de l'homme? Parce que ça reste une réaction par rapport à un traumatisme.
Oui, absolument. Mais
même si on est en opposition, même si on positive ce traumatisme, est-ce que la vraie autonomie, le vrai travail à faire pour être bien dans sa peau et pour être autonome, ce n'est pas de totalement se libérer de ça, de ne plus avoir du tout d'ancrage, même si c'est un ancrage qui a rendu positif.
Alors oui, votre question pose un problème psychosocial, c'est-à-dire que ou bien on se soumet, c'est ce qui s'est passé pendant des millénaires, hein, les blessés étaient des vaincus, donc ils avaient honte, on leur donnait pas la parole. Au camp, dans les cités-états, dans les guerres entre les cités-états, quand une cité perdait la guerre, parce qu'ils avaient moins d'armées, parce qu'ils étaient moins forts, généralement ils pensaient que s'ils avaient perdu, c'est parce que les dieux des vainqueurs étaient plus efficaces que les leurs, donc ils se convertissaient aux dieux du vainqueur. Donc c'est une manière de faire régner la paix. Et puis, le traumatisme a été très difficile à penser. Parce qu'on pensait que si quelqu'un était traumatisé, d'abord le mot était impensable, et puis il a fallu attendre Freud, qui a réduit le traumatisme au traumatisme sexuel, et surtout il a fallu attendre John Baez pour penser que les vétérans du Vietnam qui commettaient, qui buvaient, qui se bagarraient, et on les soignait pour l'alcoolisme et pour la bagarre, et John Baez a dit, mais attention, qui les a rendus comme ça? C'est ceux qui les ont envoyés faire la guerre, qu'ils ne comprenaient pas une guerre au Vietnam, qu'ils ne soutenaient pas. Donc c'est eux les coupables, ces soldats, il faut les entourer et pas seulement les punir. Et à ce moment-là, elle a provoqué un virage dans la notion de victime. Et la victime, c'était plus seulement le vaincu, c'était le blessé qu'il fallait aider. J'employais le mot « blessé » qui a une connotation d'aide, alors que le mot « victime » a une connotation juridique. Alors, la résilience a eu du mal à se mettre en place, hein, et encore maintenant, elle est critiquée, en France surtout, alors qu'à l'étranger, c'est totalement accepté. Il y a des centres de la résilience au Canada, en Suède, aux États-Unis, en Roumanie, avec un budget, je vous dis pas, avec des budgets faramineux, qui produisent, parce qu'il faut... Il faut de l'argent pour produire des publications scientifiques et qui produisent de belles publications. Et maintenant, la résilience est totalement scientifique. C'est en France qu'elle est le plus critiquée. Alors, est-ce que c'est un degré de liberté? Je crois que la résilience est la reprise, j'ai dit, un degré de liberté, parce qu'on n'a jamais toutes les libertés. Nous, êtres humains, physiquement, on n'est pas très doué, hein, quand on compare avec les autres animaux. On court pas très vite, on vole pas très longtemps, on reste pas très longtemps sous l'eau, mais on a une force, une arme, c'est le monde de l'artifice. Artifice de l'outil technique et artifice de l'outil verbal. Et ça, c'est la merveille et l'horreur. C'est la merveille parce que ça crée l'art, ça crée la civilisation, et c'est l'horreur parce que ça crée les langages totalitaires, ça crée les langages de haine. Alors, est-ce que c'est la liberté? Oui, c'est un degré de liberté puisqu'on regagne un peu d'autonomie, mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié la blessure, ça veut dire même au contraire qu'on organise toute notre vie autour de la blessure, pour la surmonter et pour en faire quelque chose.
Boris Solnik, vous intervenez parfois sur des sujets d'actualité, ça a été le cas en 2013, vous avez même signé un manifeste aux côtés d'artistes, d'intellectuels. C'était l'occasion de la loi pour le mariage pour tous, retour en son sur un événement qui aura généré de nombreuses réactions dans le camp des favorables, mais surtout chez ceux qui s'étaient opposés de manière virulente.
Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Stéphane Simon-Pierre Chapin, ici présent?
Oui.
Au nom de la loi, ils je déclare...
Oui. Stéphane et Bertrand sont depuis ce matin le premier couple homosexuel marié officiellement devant un an. À l'extérieur de la mairie, les pros et les anti-mariages gays s'étaient donné rendez-vous. Philippe de Villiers est même venu demander la révocation de l'édile de Bègles.
Et comment peut-on demander aux jeunes dans nos banlieues de respecter l'ordre et la paix civile si on accepte, ici ou ailleurs, qu'un maire viole la loi ?
Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Le mariage est fondé sur la complémentarité et le monde connaît la complémentarité d'un homme et d'une femme. Il n'y a pas d'égalité. L'égalité, c'est une invention de mathématicien.
Homme, femme, égale enfant.
Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique.
Ça a toujours été comme ça, et ça ne changera pas.
Mais cette loi, elle ne respecte pas la dignité humaine.
L'État n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité.
Cette loi, c'est la légalisation de la pédophilie.
De nouvelles violences après la manifestation contre le mariage pour tous en France. Des centaines de fauteurs de troubles ont défié les forces de l'ordre sur l'esplanade des Invalides à Paris hier. Auparavant, d'autres militants extrémistes avaient été interrogés et pour certains arrêtés par les forces de l'ordre, mobilisés en nombre. Les opposants promettent de poursuivre leur combat jusqu'à l'abolition de la loi.
La loi Taubira, pour que les choses soient claires et nous en débarrasser tout de suite, devra être réécrite de fond en comble.
Boris Cyrulnik, pourquoi selon vous une partie de la France a été aussi hostile à cette loi ?
C'est difficile de changer de conception. Généralement, on se fait une conception du monde entre 15 et 20 ans et on passe sa vie avec, sauf en cas de traumatisme où là, on est obligé de changer. Or, le mariage, lui, a changé de fonction et de signification tout le temps au cours de l'histoire humaine. Depuis l'entente des premiers couples, où le mariage n'a servi qu'à faire des enfants, le sexe à cette époque-là n'était que sacré et sociale, c'est-à-dire que le ventre des femmes appartenait à l'État et elles devaient mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour les envoyer à l'armée, dans les tranchées, ou à l'usine, ou à la mine, travailler 15 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est-à-dire que le sexe faisait du sacré, mettre au monde une âme pour adorer Dieu, ou du social pour fabriquer des ouvriers et des soldats. L'amour dans le mariage est une invention récente. Et assez curieusement, c'est que c'est les femmes ouvrières, quand l'industrie s'est développée, les jeunes femmes ont quitté la loi du père. Elles ont quitté le père pour devenir ouvrières. Et dans les usines, un ouvrier sur trois était une femme. Elles avaient un petit logement près de l'usine. Elles étaient consacrées à la machine, servant la machine, mais échappant à la loi du père. Et à ce moment-là, elles ont dit « mais je veux bien me marier, je veux bien porter un enfant, mais avec cet homme-là, pas avec celui-là ». Et à ce moment-là, elles ont introduit l'amour dans le mariage. L'amour existait auparavant, mais pas dans le mariage. Il y a des exemples glorieux, mais pas liés au mariage. Donc si l'amour est introduit dans le mariage par les ouvrières, je n'ai pas été choqué que l'amour soit introduit dans le mariage par les homosexuels. Et j'ai vu des couples homosexuels très bien s'occuper des enfants et bien, très bien. Et il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Certaines enquêtes ont été bien faites et sont arrivées à la conclusion qu'une population d'enfants élevés par une population de parents homosexuels avait les mêmes troubles, ni plus ni moins que ceux de la population générale. Et puis, il y a eu aussi des travaux un petit peu trafiqués. Mais ça veut dire que quand cette loi est arrivée sur le chantier, j'avais un a priori historique, pourquoi pas. J'avais une expérience de praticien, ça marche bien, donc pourquoi interdire? Mais ça impliquait de changer de conception du mariage. Et ça, ça a été douloureux pour une grande partie des gens de ce pays. I tried, yeah. I tried to be a righteous man. I tried to give love all over the world, but I'm tired of being used. It's my turn to love and be loved. It's my turn to get out the world and let my spirit free. Try to be a righteous man. Talk to the Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong. I keep to the path, won't go astray. When I start falling over, my feelings catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? I try to find the strength inside to keep my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I stop falling over, my feeling catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin?
Maintenant, avec la complicité des journalistes et des auditeurs, donne la parole aux psychiatres ou aux psy. Je ne vais pas m'en plaindre, mais ça veut dire que notre culture a changé puisqu'elle donne la parole à d'autres porte-paroles. Et les psychiatres, effectivement, sont des porte-paroles.
Boris Cyrulnik, je vous ai vu sur LCI, la chaîne info, toute info française, il y a quelques semaines, et vous répondiez à la journaliste qui vous montrait des photos d'hommes politiques, et il fallait que vous, en une petite phrase, que vous donniez votre avis, une sorte de portrait psy. Et sur le président François Hollande, vous avez dit « François Hollande est trop équilibré pour être président ».
Vous vous rendez compte?
C'est incroyable.
J'ai dit ça.
Vous avez dit ça. Quelle forme de déséquilibre ferait un bon président, selon vous?
Ben, ne serait-ce que vouloir le pouvoir, c'est pas un signe d'équilibre. Vouloir un pouvoir à ce niveau-là, Papa Freud disait la réussite sociale, surtout à ce niveau-là, est un bénéfice secondaire de la névrose. Et effectivement, il y a des gens qui accèdent à de très hautes responsabilités parce qu'ils sont névrosés, parfois même psychotiques. Et parfois même, vous votez pour eux. C'est-à-dire que...
Mais il a voulu le pouvoir à un moment, Hollande.
Bien sûr. Même.
Donc il a cette petite névrose, peut-être un peu moins développée que chez d'autres.
Voilà, il a voulu le pouvoir...
Vu les circonstances, d'ailleurs, quand on se rappelle...
Je me demande si c'est pas le jeu qui l'a intéressé. Je me demande s'il n'a pas voulu le pouvoir pour jouer. Parce qu'il change facilement d'avis, on le lui reproche, d'ailleurs. Donc ça veut dire que c'est pas un dictateur. Moi, président, j'ai cette opinion, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et si ça peut vous faire plaisir, ben je vais changer d'opinion. Ça lui est reproché. Alors que s'il était rigide comme un obsessionnel, s'il était convaincu d'avoir la vérité comme un paranoïaque, ben, il vous imposerait sa loi, et tout le monde serait fou d'amour pour lui.
Dans votre livre, vous écrivez vers la fin « Aujourd'hui, j'ai changé de héros. Je préfère les aventuriers du quotidien que sont les médecins et les écrivains. Ils m'ont offert un grand bonheur en donnant forme à mes rêves. » Vous rêvez de quoi aujourd'hui, Boris Cyrulnik ?
Je rêve toujours de médecine et d'écriture. Et je pense que je finirai ma vie embellie par ces deux rêves. La médecine a fait des progrès fantastiques, incroyables. En 50 ans, il y a des maladies qu'on arrive à soigner maintenant sans trop de difficultés et c'était impensable il y a 50 ans. Et l'écriture a fait des progrès fantastiques aussi. Maintenant, je relis les vedettes d'hier, je les trouve souvent mièvres comparées aux jeunes auteurs d'aujourd'hui, qui me chauffent les oreilles tellement je les trouve passionnants. Il y a des jeunes auteurs qui n'entreront pas, qui seront pas héroïsés, qui vont devenir des héros du quotidien. Ils vont avoir un an ou deux de gloire qu'ils ne cherchent pas forcément d'ailleurs. Mais ils vont être nos héros pendant un an ou deux, parce que c'est des héros de temps de paix. Mais ça sera pas des héros éternels comme Balzac, Dostoïevski qui eux ou Shakespeare qui eux sont rentrés dans l'éternité.
Vous avez rencontré Sœur Emmanuelle, vous le racontez dans votre livre, elle avait 100 ans, c'était quelques jours avant sa mort, vous écrivez, elle la sentait venir et ne la craignait pas, elle l'espérait même comme une continuité après sa vie et me disait en souriant avec une lueur d'espoir dans les yeux, je vais bientôt savoir. Est-ce que vous y pensez, vous, quel rapport vous avez avec l'idée de la mort?
Tant que je suis pas mort,
je me considère comme
immortel.
C'est vrai?
Presque vrai, oui.
Comme la plupart d'entre nous.
Mais oui. On pratique le déni. Ben écoutez, pour l'instant, je suis pas mort. Tant que je suis pas mort, je suis vivant. Ça, vous pouvez pas être opposé à cette phrase.
Je suis plutôt pour. Je valide.
Donc, tant que je suis vivant, je continue à rêver, je continue à espérer, et puis on verra bien ensuite.
Ce n'est pas un petit déni, ça?
Mais bien sûr, c'est un gros déni. C'est un gros déni. C'est comme ça qu'on peut supporter l'insupportable réalité de la mort qui nous attend tous. Mais si on acceptait, si on vivait avec la mort, comme le font certains d'ailleurs, ils sont mélancoliques, ils sont désespérés, ils sont très angoissés.
Ou on pourrait vivre d'autant plus, en sachant que c'est précieux et que chaque jour, il n'en reviendra pas.
Mais bien sûr, si on était immortel, la vie n'aurait aucun sens. Par bonheur, on est mortel, donc il faut vite donner sens aux quelques jours qui nous restent. Donc à ce moment-là, pour donner sens, on est obligé de rencontrer, de parler et de rêver, de faire des projets. Parce que le sens vient de l'histoire, de la rencontre, c'est-à-dire de la signification qu'on donne à un objet et du sens, la direction, le rêve qu'on a pour réaliser cet objet. Et à ce moment-là, la mort, le fait de savoir qu'on va mourir un jour, donne sens à notre vie.
Et dans donner sens, il y a naissance. Je sais que les psy aiment beaucoup ce genre de jeu de mots. Merci beaucoup Boris Cyrulnik d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre livre s'appelle « Ivre, paradis, bonheur, héroïque ». C'est paru chez Odile Jacob. Trois questions, Boris Cyrulnik, que nous posons à chacun de nos invités pour conclure l'émission. À quelle question répondez-vous toujours oui?
Alors, je réponds trop facilement oui à toutes les questions. Et ensuite, je me dis, zut, j'aurais pas dû répondre oui, mais c'est trop tard.
À quelle question aimeriez-vous que l'on vous réponde toujours oui?
Alors, tu es immortel. Tu as le temps de réaliser tous tes rêves. Et tu as tellement de rêves qu'il faut bien être immortel pour les réaliser.
Et quel est votre son préféré?
Oui.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Pour un oui, pour un son. La réalisation et le montage sonore étaient d'Alexandre Lemierre et merci à François Piton pour la programmation musicale. Très bonne semaine à l'écoute des programmes de la première et on se retrouve samedi prochain à 14h. Nous serons avec Robert Hossein.